Donc depuis quelques semaines, j'ai fait une série sur les racines pour toucher le ciel. Puis je me posais la question, qu'est-ce que je pourrais aborder après cette série? Eh bien, croyez-le ou pas, je suis tombé sur le verset de Galates chapitre 5, verset 22. Je me suis dit, j'ai parlé pendant 10 semaines des racines et d'arbres, je me dis, je vais quand même parler du fruit de l'esprit. Parce que je me dis, un arbre sans fruit, ça ne le fait pas. Et je me dis, nous, en tant que chrétiens, on doit aussi comprendre qu'un arbre sans fruit, ça ne le fait pas. Alors, on va regarder, si vous voulez bien, l'introduction aujourd'hui. Je ne vais pas aborder aujourd'hui les 9 fruits. Mais on va regarder un petit peu l'introduction ce matin qui va placer en tout cas pour le reste des prédications qui vont suivre par la suite. Alors il y a quelques années dans les médias, on entendait ce slogan pour être en bonne santé physique, manger 5 fruits et légumes par jour. Aujourd'hui, pour avoir une bonne santé physique, on vous encourage à être vegan. Demain, peut-être, on va vous encourager à être insectivore. Enfin, je ne sais pas où le monde va, mais il va bon train. Et chaque fois, chaque mode, il y a toujours quelque chose qui revient à notre esprit dans ce monde pour nous inciter à faire des choses qui existe, je dirais, depuis des lustres. Mais régulièrement, on nous encourage à faire des choses nouvelles. Je pense que pour maintenir une forme et avoir une énergie spirituelle, le Seigneur a tout laissé dans sa parole. Et en tant qu'enfant de Dieu, si on prend au sérieux sa parole, eh bien, il n'y a pas besoin d'aller au-delà de cette parole. Les 9 fruits de l'esprit qui sont là pour nous aider dans notre quotidien à grandir dans notre foi, dans notre vie, afin que nous puissions avoir cette énergie spirituelle que le monde n'a pas. Pour cultiver les fruits de la chair, on est des spécialistes. On n'a pas besoin qu'on nous instruise dans ce domaine. Il est facile de tomber dans la querelle, il est facile de tomber dans la jalousie, dans la calomnie, dans l'immoralité. C'est très facile pour cela. Mais pour développer les fruits de l'esprit, on a besoin d'être à l'écoute de l'Esprit de Dieu, d'être à l'écoute de la parole de Dieu pour nous montrer vraiment comment cultiver ces fruits de l'esprit. Qu'importe pour l'humanité le mot fruit? Quelques mots. Quand on voit un fruit, on a tendance à parler vitamine, énergie, fécondité, croissance. Ça implique le mot fruit dans notre esprit. Ma belle-mère aimait les pommes. Et je me rappelais de lui dire régulièrement ce vieux proverbe, ce vieux dicton anglais, qui disait, même à la fin elle en avait un peu marre de l'entendre, mais voilà, je le répétais régulièrement, parce que j'avais en tête, une pomme par jour garde le docteur à distance. Une pomme par jour garde le docteur à distance. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 83 ans. Le docteur est venu rarement à la maison, tant mieux, merci Seigneur. Mais voilà, elle aimait les pommes, et une pomme par jour la rendait heureuse. Je me dis que quand on regarde un petit peu certains fruits, ça nous rend quand même heureux. Allez sur les étalages du marché de Provence et vous verrez la différence dans l'odeur, dans les odeurs. Je vais régulièrement dans un magasin qui n'est pas très loin d'ici. Grand, je vous laisse le reste hein, pour ne pas faire de la publicité. C'est rare d'avoir des bonnes odeurs dans ce magasin, et pourtant Il y a de bonnes choses à acheter régulièrement dans ce magasin. Mais si vous allez sur les étalages en Provence, qu'est-ce que c'est bon de manger un melon de fraise? Rien qu'à l'odeur, vous savez qu'ils viennent de Cavaillon. Qu'est-ce que c'est bon de manger une bonne pêche juteuse? Rien que de savoir que ça vient de Provence, ouais, ça mérite le fait de mettre le prix pour les acheter. Le fruit de l'esprit dont nous allons parler dans la série n'a rien d'artificiel. C'est de la bonne vitamine spirituelle que le Seigneur veut nous donner. Et s'il a laissé ce verset de Galates chapitre 5, verset 2, c'est que nous devons, nous devons le contempler, nous devons l'examiner, nous devons goûter ces merveilleux fruits de l'esprit. Tout d'abord, la parole de Dieu nous encourage à rechercher ce fruit, le fruit de l'esprit. Nous devons le rechercher. Le monde recherche la joie, le monde recherche la paix, le monde recherche la maîtrise de soi. Mais pour eux, tous les moyens sont bons pour rechercher ces fruits-là. Ils vont le chercher dans la religion, dans le plaisir, dans le sport, dans le yoga, dans la musique, parfois dans les sectes. Mais nous, nous n'avons pas besoin d'aller les rechercher dans ce domaine. Tout est là dans la parole de Dieu pour que nous puissions en comprendre toute la source que le Seigneur nous donne au travers de ces 9 qualités qu'il a laissées dans sa parole. Il faut faire la différence entre don de l'esprit et fruit de l'esprit. Il ne faut pas les confondre. Les dons sont là pour servir les autres. Les fruits sont là pour nous changer intérieurement et pour nous transformer notre caractère. Et nous avons tendance dans notre milieu évangélique à mélanger ça un petit peu. Mais en réalité, quand on comprend vraiment l'efficacité du don de l'esprit, eh bien, c'est parce que nous avons mis en pratique dans nos vies le fruit de l'esprit. Notez que le fruit de l'esprit est un singulier. J'ai toujours été étonné de le voir que le Seigneur nous parle dans Galates chapitre 5 de 9 fruits et qu'il a mis au singulier. Mais en réalité, quand on comprend le pourquoi, eh bien, on essaye de réfléchir un petit peu à ces 9 fruits de l'esprit. Eh bien, c'est parce que la source est le Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 5, verset 5 nous dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et je pense que quand on regarde cet aspect, un chrétien doit porter du fruit. S'il ne porte pas de fruit, il doit lui-même se poser la question. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous regarder les uns les autres. Alors, ça m'arrive des fois de vous regarder les yeux dans les yeux. Et il y a des fois, vous savez, il y a des gens, c'est naturel, la joie. Ça reflète la personne, une personne joyeuse. Et je ne sais pas si vous êtes dit, ben, merci Seigneur parce qu'elle est venue ce matin et elle m'a rendu la joie dans le Seigneur juste en la voyant. Mais la même personne peut faire à la tête ou s'être mis en colère avant d'arriver au culte dans la voiture avec ses enfants. Voyez-vous, on a cette tendance à dire, oui, on doit porter du fruit, on doit porter le fruit de l'esprit. Et la question que je voudrais vous poser ce matin, c'est, quel est le fruit où ça ne va pas trop pour vous? Est-ce qu'il vous manque de l'amour? Est-ce qu'il vous manque de la joie? Est-ce qu'il vous manque de la paix? Est-ce qu'il vous manque de la patience, de la bonté, de la bienveillance, de la foi, de la douceur, de la maîtrise de soi? Quel est le fruit qui vous manque dans votre vie que vous pourriez un petit peu rectifier dans votre vie? Deuxième point ce matin, c'est que le fruit de l'esprit est un choix de vie. Et je voudrais juste, selon la parole de Dieu, que certains hommes dans la parole, certaines femmes dans la parole, ont cultivé le fruit de l'esprit. Parce que Dieu leur a mis à cœur vraiment certaines choses. J'ai toujours aimé la vie de Joseph dans l'Ancien Testament. Parce que ce qui lui est arrivé était quelque chose d'injuste. Là, on le voit bien, c'était quelque chose d'injuste, si vous ne connaissez pas le texte. Mais à la fin, donc quand son papa est décédé, Jacob, eh bien les frères sont revenus et ont pensé, ça y est, papa est décédé, maintenant le malheur va nous tomber sur la tête. Et voici ce qui est dit au chapitre 50 du livre de la Genèse, verset 15. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. Ils vinrent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph, « Oh, pardonne le crime de tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles, parce qu'en réalité, ce n'est pas si vrai que ça. Ce n'est pas si vrai que ça. Et voici ce qui est dit par la suite. Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et lui dire, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité pour me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il les consola en parlant à leur cœur. Voyez-vous, Joseph a vraiment manifesté l'amour de Dieu vis-à-vis de ses frères. Eux qui ont voulu faire du mal, je pense qu'il a vraiment manifesté le fruit de l'esprit que nous avons dans Galates, qui est le premier fruit de l'esprit, l'amour. Si Joseph n'avait pas d'amour, à mon avis, il aurait agi sûrement comme leurs frères, qu'ils avaient mal agi. La Bible nous montre aussi dans le livre des Rois. C'est un livre passionnant, le livre des Rois. Vous avez plusieurs exemples que le fruit de l'esprit est un choix de vie. Vous avez par exemple ces versets que vous trouvez dans la Bible, dans le livre des Rois. 2 Rois, chapitre 2, 22, qui nous est dit, Josias fit ce qui est droit aux yeux de Dieu. C'est-à-dire, si vous regardez la vie de Josias, eh bien, c'était un homme qui était intègre, fidèle, qui était un homme de paix. Et il a manifesté, donc, cette intégrité. Le choix de sa vie, c'était cela. C'est-à-dire que, dans sa vie, il voulait rester fidèle à Dieu. Et puis, dans le même livre, vous avez des personnages comme par exemple Manassé. Vous avez dit le texte de 2 Rois, chapitre 22, verset 2. Manassé fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Et si vous regardez le livre de Néhémie et d'autres passages, même dans 2 Rois, chapitre 21, verset 1 à 11, Israël, Jérusalem, si elle a été détruite à un moment donné de son existence, c'était à cause du choix de Manassé. Parce que Manassé avait péché contre l'idolâtrie et contre l'occultisme, nous dit le texte. Oui, la ville de Jérusalem est devenue fantôme à cause du choix de Manassé. Et je me dis, une question que je me pose personnellement, régulièrement, il y a toujours des conséquences à nos choix que nous faisons, bons ou mauvais. Que ce soit les bons choix ou que ce soit les mauvais choix, nous avons toujours des conséquences de ce que nous faisons, de ce que nous décidons ou pas. Ne vous y trompez pas. On ne se trompe pas de Dieu. On ne se trompe pas de Dieu. On ne se trompe pas de Dieu. Excusez-moi. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est dans le livre des Galates, chapitre 6, verset 7. Porter du fruit, troisième point, est une préoccupation de Jésus. Nous voyons que le Seigneur Jésus parlait souvent en paraboles. Et souvent, ces paraboles qui ressurgissent dans notre esprit, eh bien, on pense souvent à ce figuier que Jésus est venu voir un jour, et puis, parce qu'il ne portait pas de fruits, eh bien, il a maudit. Eh bien, je me dis, si c'est une préoccupation de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, le fruit a plus forte raison dans notre vie, ça devrait être une préoccupation de porter du fruit. Jean chapitre 15 nous en parle du cèpe et du sarment. Jésus précise clairement qu'il y avait des personnes qui ne portent pas de fruit, verset 2. La deuxième partie, toujours du verset 2, il y avait ceux qui portent plus de fruits grâce à l'émondage. Et puis vous avez ceux qui portent beaucoup de fruits. Jean chapitre 15, versets 5 et 8. Donc nous aussi, nous avons besoin de porter beaucoup de fruits. Et nous avons besoin de comprendre cet aspect, de ne pas nous arrêter uniquement au premier ou au deuxième, ou au troisième fruit de l'esprit. Non, nous avons besoin de comprendre les neuf fruits de l'esprit pour les porter dans leur totalité. Maintenant, laissez-moi vous parler de contexte du verset de Galates 5, verset 22. Si vous venez la semaine prochaine, je vous parlerai du premier, de l'amour. Mais je voudrais quand même vous donner avant le contexte de Galates chapitre 5, verset 22. Je pense que pour comprendre ce verset, nous avons besoin de comprendre l'ensemble de l'épître aux Galates. Je pense que si vous allez manger une fondue aux Champs-Élysées en plein mois de juillet, ça ne va pas faire pour tout le monde. Hein. Mais je pense que si vous mangez la même fondue à Haute-Savoie, en face de belles montagnes, là vous verrez que la fondue a une autre odeur. Eh bien, je pense que quand on lit la parole de Dieu, on doit comprendre pourquoi ces versets existent dans leur contexte, dans leur environnement, pour bien manger quand on lit la parole de Dieu. Pour comprendre ce que Paul est en train de dire au travers de l'Épître aux Galates et pourquoi le Seigneur l'a inspiré à mettre ses fruits de l'Esprit là dans cette Épître. Paul a fait plusieurs voyages. Alors j'ai pris une carte qu'on présente souvent à nos enfants au premier étage. Paul a fait plusieurs voyages. Vous connaissez cette carte. Peut-être vous avez cela dans votre Bible, si vous en avez encore une, parce qu'aujourd'hui, vous vous promenez plus avec une smartphone qu'avec des Bibles. J'en constate régulièrement la teneur. Mais voilà les cartes que vous pouvez trouver dans vos Bibles. Donc Paul a beaucoup voyagé. Et un de ses voyages a été dans cette partie de l'Europe que nous appelons aujourd'hui l'Europe du Sud. Et une de ces parties, eh bien, c'était la Galatie. Et dans cette partie-là que vous avez, eh bien, il y avait trois villes qui étaient bien connues. Donc c'était Icone, Derbe et Lystra que vous avez ici dans cette partie. Et au travers donc de son voyage, eh bien, l'apôtre Paul a vu et a vu grandir plusieurs églises qui ont été, donc aujourd'hui on appellerait ça, cette région, on appellerait ça la Turquie, c'est la Turquie du Sud, mais dans cette région, il y avait des églises qui se développaient, et quand Paul passait dans ces églises, eh bien juste après lui, il y avait d'autres personnes qui venaient le voir, qui venaient voir ces églises et qui mettaient la confusion. Alors, ils étaient certains, c'était des spécialistes de la confusion. Alors, une des raisons pourquoi ces Galates se détournaient de Dieu, puisque le texte nous dit, Galates chapitre 1er verset 6, eh bien, une des raisons, les premières raisons pourquoi ces Galates se détournaient, eh bien, c'est parce qu'ils avaient entendu un autre évangile. Il y avait des personnes qui venaient les voir, Paul passait dans ces églises, il leur annonçait la parole, il leur prêchait la parole, il les enseignait dans la parole, et puis une fois qu'ils étaient partis dans un autre voyage, eh bien, il y avait d'autres personnes qui venaient derrière lui, et qui enseignaient complètement le contraire de ce que Paul était en train d'enseigner. Ils enseignaient le retour à la loi mosaïque, c'est-à-dire que ces personnes-là, ben, quand Paul était parti, je ne le disais pas devant Paul, hein, mais quand Paul était parti, eh bien, Dieu, ben non, la liberté en Christ, d'accord, mais la loi de Moïse, très important, il faut revenir aux fondamentaux, donc à l'Ancien Testament. Et il contestait l'apôtre Paul. Petit à petit, les chrétiens de Galatie partaient dans l'enseignement du légalisme, des traditions anciennes. Et Paul est obligé de rappeler à ces chrétiens la vraie liberté qu'ils avaient en Christ sans retourner dans l'Ancien Testament. Il leur montre clairement les choses et on le verra un petit peu plus tard. Deuxième raison pourquoi Paul écrit l'Épître aux Galates, c'est qu'ils étaient troublés. Le texte nous dit clairement, c'est-à-dire que ces personnes qui venaient après avaient mis le trouble dans le cœur de ces premiers chrétiens qui avaient là. C'est-à-dire que Paul avait enseigné le bon enseignement, les bonnes choses qu'il devait avoir en Christ, et Paul a dû réaffirmer les bonnes doctrines parce que ces personnes, à un moment donné, étaient troublées d'entendre certaines choses qui n'étaient pas de l'enseignement de la parole de Dieu. Troisième raison, c'est que les faux docteurs avaient altéré l'évangile. Ils les troublaient et en même temps, ils altéraient l'évangile. Paul avait commencé même à les attaquer en leur disant que il n'y a plus besoin de revenir en esclavage, donc on a la liberté en Christ, et à un moment donné, il va leur réaffirmer clairement que s'ils retournaient dans l'Ancien Testament, eh bien, ils retourneraient dans l'esclavage, plus besoin de loi, on n'a plus besoin du régime de la loi, on est en Christ, et nous sommes maintenant libérés en Christ. Laissez-moi faire juste un petit survol rapide de l'Épître aux Galates avant la semaine prochaine de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Paul va combattre les faux docteurs. Il va affirmer son autorité spirituelle dans le chapitre 1 et le chapitre 2. Il va redire la substance et la source de l'Évangile en condamnant d'autres sources de l'Évangile. Verset chapitre 3 et verset 4. Et il va leur parler du rayonnement du chrétien en leur donnant des choses pratiques, donc les fruits de l'esprit, au chapitre 5 et le chapitre 6. Le légalisme a toujours été un problème dans l'Église primitive. Elle est un problème encore aujourd'hui. Les traditions peuvent aussi avoir des sources de difficultés si on ne prend pas attention. Et je pense que l'apôtre Paul donne dans cette épître une bonne leçon pour nous aujourd'hui en tant qu'Église. C'était peut-être des beaux parleurs. C'était peut-être des personnes qui avaient l'apparence de la piété. C'était des personnes qui voulaient montrer peut-être une personnalité qu'au fond, ils n'avaient peut-être pas. Il est important, je pense, en tant que chrétien, de revenir vraiment à la parole de Dieu, de revenir aux fondamentaux, de revenir aux bases chrétiennes, aux bases qui nous font grandir dans le Seigneur Jésus-Christ. Il est important pour un chrétien de connaître la parole de Dieu, de savoir ce que la parole de Dieu nous dit. Vous savez ce texte que vous trouvez dans Éphésiens chapitre 4, verset 14, « Afin de ne pas être des enfants emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par les ruses des moyens de séduction. » Je me dis, mais l'Église d'aujourd'hui pourrait être transportée à toutes sortes de tromperies, à toutes sortes de flatteries, à toutes sortes de ruses que Satan met en place pour nous tromper, pour nous éloigner de la parole de Dieu. Vous savez cet avertissement dans l'Épître aux Éphésiens? Eh bien, dans le livre de l'Apocalypse, on retrouve cette Église d'Éphèse. Et le reproche que Dieu fait à cette Église, j'ai cependant un reproche à te faire. Tu as abandonné l'amour que tu avais au début. Elle était superbe, cette Église d'Éphèse. Au début, tout allait bien. Mais au fur et à mesure qu'elle a avancé, elle est tombée, vous savez, dans la routine chrétienne. On va à l'église, mais ils avaient perdu l'éclat du départ. Et l'éclat du départ, c'était ce qu'ils avaient abandonné, l'amour du début. Je pense que ça doit nous interpeller à nous en tant qu'enfants de Dieu. Est-ce que nous avons perdu l'amour du départ? Quand nous avons accepté Jésus-Christ, quand l'Esprit de Dieu est venu en nous pour la première fois, est-ce que nous avons perdu cet esprit parce que nous sommes rentrés dans une routine? Cela nous a éloignés de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Oui, le Seigneur nous rappelle que nous avons ces 9 fruits à mettre en pratique dans nos vies, mais dans le fond, est-ce que nous faisons des efforts pour les mettre réellement en pratique dans nos vies? Est-ce que nous faisons des efforts pour mettre ce magnifique fruit qui est l'amour? Est-ce que nous faisons des efforts pour mettre la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi? Est-ce que nous mettons tout en pratique pour que ces fruits transforment ma vie et transforment les personnes qui sont autour d'eux? Parce que vous ne devez pas forcément les garder pour vous-même. Vous savez, une personne qui est patiente, ça se voit. Une personne qui est remplie de douceur, c'est quelque chose qui se voit. On dit souvent que les couples sont différents. Merci Seigneur qu'on ait des personnes différentes. Mais quand dans un couple, il y a quelqu'un qui manifeste de la patience, c'est riche. C'est riche. Quand il y a une personne qui manifeste de la douceur, ça c'est super. Hein? Par contre, si vous manifestez les autres fruits qui ne sont pas dans ce verset, eh bien, il peut y avoir de la déstabilisation parfois dans une vie si on n'y prend pas garde. Alors, ouvrons-nous pleinement à l'influence de notre Sauveur. Laissons l'Esprit de Dieu agir dans nos vies et que ses fruits dirigent tous les domaines de notre vie. Laissons-nous nous fasciner par l'image du Seigneur en cultivant les fruits de l'Esprit. Amen.